Un jour, j'ai refusé de payer une de leurs taxes et les Chebabs m'ont coupé la main. Après, ils sont venus me voir pour me dire « On sait que tu nous détestes, mais on veut que tu rejoignes nos rangs. » J'ai refusé et ils m'ont emprisonné.
RFI. Grand reportage.
Attentats, recrutement forcé, taxation illégale et application de la charia. 15 ans après son émergence, le groupe islamiste Al-Shabaab continue d'imposer sa loi en Somalie, tirant parti des profonds clivages politiques et claniques qui agitent la classe politique du pays. Il a même renforcé son emprise l'an dernier. Somalie, vivre sous la menace des Chebabs, c'est un grand reportage de Florence Maurice.
Aéroport de Baidoa, dans le sud-ouest de la Somalie, une petite enclave ultra sécurisée dans une région largement dominée par la présence des islamistes Chebab. Et pour cause, l'avion est l'unique moyen de transport pour venir ici. Baidoa a beau avoir été théoriquement reprise aux Chebab il y a presque 10 ans, ces derniers contrôlent toujours l'ensemble des routes alentour et y harcèlent quiconque ose s'y aventurer. Dans la ville de Baidoa même, l'ombre des Chebab n'est jamais très loin, déplore sous le sceau de l'anonymat le responsable d'une ONG locale.
Je ne peux pas dire qu'ils tiennent toujours la ville, mais ils peuvent y venir à tout moment et faire absolument ce qu'ils veulent. La nuit, ils mènent des kidnappings, alors les gens s'entassent en centre-ville. Dès que tu vas dans la périphérie, c'est la peur. Tu peux être avec quelqu'un sans te douter que c'est un de leurs informateurs et être en danger sans même le savoir. Alors dès que 10 personnes sont rassemblées dans un même lieu, tu commences à avoir peur car tu sais que tu ne peux pas leur faire confiance à tous.
Pour les Occidentaux présents à Baidoa, l'une des cibles privilégiées des islamistes Chebab, les possibilités de déplacement sont très limitées. Elles se réduisent le plus souvent à un mince périmètre de terre accolé à l'aéroport, sous protection de l'AMISOM, la force de l'Union africaine, et où se concentrent personnel des Nations Unies, ministères, palais présidentiels et centres d'entraînement de l'armée. Brenda Escalante travaille pour le HCR dans la localité.
Dès que l'on quitte cette zone, on doit prendre une escorte armée de l'AMISOM et de l'armée nationale. La sécurité est très volatile à l'intérieur de Baidoa. Il arrive souvent qu'on soit en route et qu'on nous demande de faire demi-tour pour rentrer, parce qu'en quelques minutes, le contexte sécuritaire aura changé. Et quand nous allons dans les sites de déplacés, nous ne sommes pas autorisés à rester plus d'une heure sur le terrain.
Quelques jours avant ce reportage, les services de renseignement ont fait état d'un risque imminent d'attaque visant des véhicules de l'AMISOM ou des Nations Unies. Tous les déplacements non critiques ont été suspendus. Paradoxalement, la ville de Baidoa reste considérée comme relativement sûre à l'échelle de la Somalie. Parce que l'AMISOM y est positionnée et que l'aide humanitaire y est disponible, des centaines de milliers de déplacés originaires des zones rurales sous contrôle Chebab y affluent chaque année. Ils représentent la moitié de la population de la ville. Ils fuient pour la plupart les méthodes punitives employées par les islamistes contre quiconque oserait défier leurs lois.
Un jour, j'étais partie couper du bois avec ma famille pour le vendre et gagner de quoi vivre. Au retour, nous avons été arrêtés par un groupe de Chebab. Quand ils ont vu notre récolte, ils ont brûlé tout notre bois et ont tué tous nos ânes. C'était pour nous punir.
Dans le village de Fatima, près de Bakol, les Chebab répriment toutes les activités économiques qui échapperaient à leur contrôle. Quelques semaines après cet incident, cette mère de famille a fui avec ses 7 enfants.
À partir de ce jour-là, on n'a plus été autorisé à quitter la maison pour chercher de quoi vivre sous peine de représailles. Nous étions en permanence sous leurs menaces. C'est pour ça que nous sommes venus nous réfugier à Baidoa.
Pour avoir le droit de travailler, il faut se soumettre au système de taxation illégale mis en place par les islamistes Chebab. Un système sophistiqué et généralisé. Abdoulkadir Ali Mohamed est responsable de la commission pour les réfugiés et les déplacés dans l'État du Sud-Ouest.
Le système est très organisé. Pour une ferme de 120 mètres carrés, ils imposent une taxe de $350 par année. Pour 10 chameaux, il faudra payer l'équivalent d'une chèvre ou d'une vache par année, en plus d'une autre taxe d'environ $60. Et tous les ans, le système change. Ils s'octroient un pourcentage sur tout ce qui est produit ou cultivé. Et si quelqu'un n'a pas d'exploitation, eh bien ils vont le taxer sur sa maison. Quoi qu'il en soit, il faudra payer quelque chose. C'est pour ça que les gens se retrouvent évincés de force et viennent dans les centres urbains contrôlés par le gouvernement.
Et si les gens ne peuvent pas payer, que se passe-t-il ?
Ils les mettent en prison, c'est pour ça que les gens fuient.
Détention, extorsion et parfois même mutilation. Abdul Karim s'est engagé dans l'armée nationale somalienne après avoir été amputé de la main droite.
Ce sont les Chebabs qui m'ont fait ça. Quand j'étais encore civil, je les combattais déjà. Un jour, j'ai donc refusé de payer une de leurs taxes et ils m'ont coupé la main. Après, ils sont venus me voir pour me dire « On sait que tu nous détestes, mais on veut que tu rejoignes nos rangs ». J'ai refusé, alors ils m'ont emprisonné.
Chacun à leur manière, les récits des déplacés de Baïdoa éclairent les nombreuses facettes du joug quotidien et implacable instauré par les islamistes Chebabs dans les zones rurales.
L'autre menace, c'est qu'ils t'obligent à payer une taxe pour chaque nouvel enfant.
Abdul Hassan était propriétaire d'une ferme dans les environs de Dinsor avant de fuir pour Baïdoa.
Tant que tu n'as pas payé, tu n'as pas le droit de donner un nom à cet enfant. Quand mon dernier fils est né, ils m'ont demandé l'équivalent de 20 dollars. J'ai refusé de payer. J'étais obligé de m'enfuir. Et puis si on était resté, c'est mon fils aîné qui aurait sans doute été recruté par les Chebabs. Soit il l'aurait endoctriné et mobilisé, soit il l'aurait pris de force. Il nous fallait partir avant que cela n'arrive.
Cette crainte de voir leurs enfants enrôlés parmi les combattants Chebabs est l'autre cause majeure de déplacement dans la région. Selon l'ONU, les cas de recrutement forcé de mineurs ont considérablement augmenté l'an dernier. Zulika est mère de 7 enfants. Elle a fui son village dans le district de Berdalé.
Ils prennent des enfants dès qu'ils atteignent l'âge de 15 ans. Soit ils les endoctrinent à travers leurs prêches, soit ils les prennent de force en nous menaçant. Quand ils les endoctrinent, ils leur disent que s'ils rejoignent les Chebabs et qu'ils meurent au combat, ils accéderont au paradis. Et certains enfants y croient. La pression était vraiment très grande.
Rien qu'en 2021, à Baïdoa, 7000 personnes ont été accueillies, fuyant des campagnes de recrutement forcées. Selon Abdoulaye Ouattine, directeur de cabinet du président de la région sud-ouest, pour dicter leurs lois et garnir leur rang de jeunes combattants, les Chebabs ne reculent devant rien.
Les Chebabs s'appuient aussi sur les chefs traditionnels pour faire pression sur les familles et les pousser à accepter de livrer leurs enfants. Parfois, ils n'hésitent même pas à mettre certains parents en prison. Ils les détiennent pour qu'ils cèdent. C'est l'une des principales difficultés à laquelle font face les gens dans les zones rurales.
La prison, c'est aussi parfois le sort réservé aux proches de ceux qui osent déserter. Hassan a été recruté de force par les Chebabs à 14 ans avec l'ensemble de sa classe, puis extirpé de leur rang grâce à l'un de ses oncles.
Quand j'ai déserté, les Chebabs ont arrêté mes parents. Et ils m'ont appelé pour me dire « On détient tes proches. Si tu veux qu'on les libère, il faut revenir. » Je leur ai dit « Vous pouvez les tuer. Je ne reviendrai pas. » Et par chance, ils les ont libérés.
Un mélange d'idéologies, de pressions insidieuses et d'incitations économiques aussi. C'est ce qui ressort du témoignage d'Abdoulaye, recruté à l'occasion d'une visite dans son village de Berdalé au sud de Baïdoa. Il n'avait pas 20 ans.
Ils ont des équipes qui mobilisent les jeunes et ils font passer leur message à travers votre famille ou vos amis. C'est ainsi qu'on m'a fait savoir que si j'acceptais de devenir chauffeur pour les Chebabs, j'allais gagner beaucoup d'argent. Et on m'avait promis que je ne combattrais pas.
Au chômage et poussé par certains de ses proches, inquiets de la réaction des Chebabs en cas de refus, Abdoulaye a accepté.
Je n'avais aucune liberté de mouvement. Je ne pouvais pas téléphoner quand je le voulais. Et la nuit, j'avais interdiction d'allumer les phares de la voiture, car ils craignaient les bombardements. Et on passait parfois des nuits entières à se cacher dans la brousse. Je me sentais sous pression.
Au lieu des 400 dollars mensuels promis, Abdoulaye est payé 100 dollars et se retrouve finalement une arme à la main.
Un jour, j'étais en train de conduire et ils m'ont ordonné de me garer, de prendre une arme et de participer à la guerre. J'étais choqué car je n'avais reçu aucun entraînement. Je ne savais pas quoi faire. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est de voir un combattant se faire tirer dessus et mourir sous mes yeux.
Une fois seulement, Abdoulaye a dû combattre, mais il en rêve encore. Un an après son recrutement, le jeune homme parvient à s'échapper et rejoint Baïdoa. Désormais, il craint les représailles des Chebab.
Je me sens en danger, car quand quelqu'un déserte les Chebab, la plupart du temps, il devient une cible. Ils essaient de le retrouver. Parfois, pour me rassurer, je me dis que je n'étais qu'un chauffeur, que je n'ai pas beaucoup d'informations, que je n'étais pas très impliqué. Mais je ne peux plus faire confiance à personne.
Après une formation d'électricien dans un centre de réinsertion, Abdoulaye travaille désormais comme taxi. Mais refuse les courses en dehors du centre de la ville. Il estime qu'il ne sera plus jamais en sécurité à moins de quitter son pays. Car si le groupe islamiste Chebab n'est pas une force populaire, il est assurément puissant, y compris dans les centres urbains théoriquement repris par les forces gouvernementales. En 10 ans, le groupe est parvenu à y étendre son influence sans avoir besoin de les contrôler physiquement. Une gouvernance de l'ombre qu'analyse Omar Mahmoud, chercheur spécialiste de la Somalie à l'International Crisis Group.
Aujourd'hui, ils sont capables littéralement de harceler, y compris les centres urbains qui ont été remis par l'AMISOM et les forces de sécurité nationale. Dans certaines villes, ils ont imposé une forme de blocus en empêchant les marchandises d'en entrer et d'en sortir, ce qui contribue à saper les efforts du gouvernement. L'autre changement majeur, c'est qu'en plus de leur présence forte dans les zones rurales, ils ont réussi à se forger une présence fantôme tenue par le gouvernement. Cela se traduit par exemple par un réseau de services de renseignement très développé, et cela leur permet de pénétrer indirectement les zones urbaines, de taxer les zones urbaines, la capacité à y mener des attaques, d'y être véritablement présent dans l'ombre.
Cette gouvernance fantôme pèse sur le quotidien des habitants de Baïdoa. Ahmed a quitté en 2021 un camp de déplacés kényans pour revenir dans son pays. En rentrant, il pensait monter un petit commerce, mais le blocus imposé par les islamistes a fait voler en éclats son rêve d'une nouvelle vie.
Cela a des conséquences sur notre vie sociale. On ne se sent pas libre de se déplacer, mais aussi des conséquences économiques, car on ne peut plus s'approvisionner pour faire du commerce. Les Chebab contrôlent absolument tous les flux de marchandises, ce qui nous prive d'une possible source de revenus.
Selon une étude réalisée en 2020, les recettes fiscales des Chebab s'élèveraient à 15 millions de dollars par mois, dont près de la moitié proviendrait de Mogadiscio et de son port sous contrôle des autorités fédérales. Selon de nombreuses sources, les revenus générés par les taxes des Chebab dépasseraient même ceux des impôts prélevés par le gouvernement. Baïdoa ne fait pas exception, selon ce responsable anonyme d'une ONG locale.
Non seulement ils contrôlent tous les flux de richesses, mais ils arrivent aussi à collecter des taxes jusque dans Baïdoa. La plupart des businessmen travaillent avec eux. Ils n'ont pas le choix. Il est impossible de faire venir des biens de Mogadiscio sans payer des taxes aux Chebab et donc sans dépendre d'eux. Le gouvernement n'est pas en mesure d'assurer leur sécurité. Donc certains travaillent pour les Chebab. C'est comme ça que les islamistes arrivent à avoir des représentants en ville qui prélèvent des taxes pour eux. Donc non seulement les Chebab sont une menace pour la sécurité, mais ils contrôlent l'économie ici.
Selon le groupe d'experts des Nations Unies sur la Somalie, ces rentrées d'argent permettent aux Chebab d'être autonomes financièrement et de ne pas dépendre de sources de revenus extérieures au pays. Le groupe génère suffisamment d'argent pour financer encore longtemps son insurrection, écrivent les experts onusiens dans leur dernier rapport. S'immisçant dans toutes les failles des autorités somaliennes, les Chebab parviennent également à se substituer au gouvernement pour la délivrance de certains services, en particulier la justice, poursuit notre responsable d'ONG local.
À Baïdoa, ce sont les Chebab qui tranchent la plupart des affaires de justice. Si par exemple les gens sont en désaccord avec une décision prise par une cour gouvernementale, eh bien ils vont chez les Chebab, ils prennent une moto en ville ou une voiture et il ne faut pas aller bien loin puisque Les chebabs sont présents partout, à 10 km à la ronde. Et ce que nous disent les gens, c'est qu'ils font davantage confiance à cette justice parallèle, car ils disent que les cours de justice officielles sont corrompues. Pour les chebabs, c'est une manière supplémentaire d'exercer leur contrôle sur les populations. Ça leur permet de dire « Regardez, les gens viennent nous voir depuis les zones contrôlées par le gouvernement. Et c'est nous qui rendons la justice à Baïdoa. » Et ils en font un argument de leur propagande pour dire « Vous voyez, les autorités sont incompétentes, ils ne sont pas capables de rendre la justice. »
Dans ce contexte, le bilan de l'intervention de l'AMISOM, la force de l'Union africaine, déployée il y a 15 ans pour contrer l'insurrection Chebab, apparaît mitigé. Ces dernières années, et malgré ses quelques 20 000 hommes, sa capacité offensive a beaucoup diminué, explique Omar Mahmoud, spécialiste de la Somalie.
Les premières années, l'AMISOM a gagné du terrain en reprenant des territoires qui étaient aux mains des Chebab. Et avec le temps, la mission s'est retrouvée débordée en quelque sorte. Car quand on gagne du terrain, il faut ensuite le garder. Et c'est très différent et beaucoup plus difficile. Donc je crois que la mission s'est retrouvée coincée, accaparée par la nécessité de tenir ces territoires, ce qui a réduit sa capacité à mener de nouvelles offensives. Et parallèlement, les Chebabs ont adapté leur stratégie. C'est pourquoi la question aujourd'hui est d'arriver à trouver comment la MISOM peut retrouver ses capacités offensives.
À Baïdoa, la présence de la MISOM est donc perçue avec ambivalence. On critique son manque d'efficacité, mais on redoute les conséquences si elle venait à se retirer.
Ils restent la plupart du temps dans leur camp, comme s'ils avaient peur. Mais là-bas, ils ne peuvent rien pour nous. Ils se comportent comme des observateurs. Si jamais il y a une attaque et que quelqu'un ouvre le feu à Baïdoa, ils vont réagir. Mais on ne les voit pas à l'offensive, en train de traquer les Chebabs. Et puis pour eux, c'est difficile de savoir qui est parmi les Somaliens. Pour autant, je ne peux pas dire que je suis pour un retrait de l'AMISOM, car s'ils s'en vont, on aura encore plus de problèmes. Donc je les encourage à rester, mais à faire plus pour nous protéger.
Un retrait de l'AMISOM d'ici 2023, c'est pourtant le souhait affiché par le président somalien Farmadjo. Mais en coulisses, y compris au sein du pouvoir, beaucoup estiment que cet objectif est irréaliste. Ils craignent une répétition du scénario afghan qui a vu Kaboul s'effondrer aux mains des talibans dans les jours qui ont suivi le retrait de l'armée américaine. Ils sont conscients des faiblesses de l'armée nationale somalienne qui reste peu équipée mais surtout minée par des divisions politiques et claniques malgré le soutien en formation des partenaires de la Somalie. À Baïdoa, c'est l'armée britannique qui assure depuis 2019 la formation des soldats somaliens. Au sol, à l'intérieur du camp, on aperçoit une zone dédiée à la détection des IED, ces engins explosifs improvisés. Dans la guerre asymétrique que mène la Somalie face aux Chebab, c'est l'une des principales menaces que les soldats doivent affronter. Hassan est l'un des 20 instructeurs déjà formés par les Britanniques.
Les Chebab utilisent beaucoup d'IED, ils les enfouissent dans le sol, ça fait partie de leur stratégie. Alors ici, on apprend aux soldats à les reconnaître, à les éviter et aussi à les neutraliser.
Autre priorité pour l'armée britannique, tenter de renforcer la coopération entre l'AMISOM et l'armée nationale, trop souvent défaillante. Mais pour le lieutenant-colonel britannique King Evans, qui supervise le centre d'entraînement, le principal frein à une lutte efficace contre les Chebabs est le manque d'une réelle volonté politique.
Le principal défi de l'armée somalienne, ce sont les dirigeants politiques. Dans ce centre, on les aide pour la formation opérationnelle et tactique. Mais la Grande-Bretagne est aussi mobilisée à Mogadiscio, à un niveau politique, via notre ambassadeur, et avec l'AMISOM aussi, pour faire avancer les choses tous ensemble.
Car depuis plus d'un an, l'élite dirigeante somalienne se déchire autour d'une élection présidentielle sans cesse repoussée. Cette crise détourne Mogadiscio de la lutte contre les insurgés Chebab, qui en profitent pour renforcer leur capacité de nuisance. Depuis début janvier, les attaques menées par les islamistes ont repris de plus belle. Les analystes sécuritaires spécialistes de la Somalie craignent que dans les mois qui viennent, elles ne s'intensifient.
Somalie, vivre sous la menace des Chebab, un grand reportage de Florence Maurice, réalisation Pauline Leduc.